cours d'éthique religieuse par le père Philippe à Saint-Jeudard le 6 novembre 1991.
Petite question. Vous dites que la solitude est un moyen qu'elle accompagne la contemplation. Très bien, je suis d'accord. Mais peut-être, mais peut-on dire alors que lorsqu'on contemple, on n'est plus seul, puisqu'on est avec Dieu. Donc, la solitude, au point de vue religieux, n'existe pas. Elle existe subjectivement. Ce qui fait qu'elle existe au carré. Oui. Donc, elle existe au point de vue physique. Et pour un incroyant. Mais pas au point de vue chrétien. Au point de vue philosophique. On est avec Dieu. Donc on n'est pas seul. Oui, mais on est avec Dieu dans la foi. Et la foi implique une absence. Mais, psychologiquement parlant, la foi peut être une présence étonnante grâce à l'amour et grâce à l'Esprit Saint. Et la foi peut être source, psychologiquement, d'une absence, parce qu'on ne voit pas. Et c'est la même chose au point de vue philosophique. On contemple celui qu'on ne voit pas, mais qu'on sait présent. On sait que lui nous voit et que nous ne le voyons pas. C'est pour ça que psychologiquement, humainement parlant, c'est la solitude. On se sépare de ceux qui nous sont normalement unis, sensiblement, affectivement, pour découvrir celui qui est source de notre vie, de notre intelligence, de notre amour, et que nous ne voyons pas. Alors, je peux dire que la voie d'accès vis-à-vis de Dieu implique la solitude. Et quand Dieu se donne, c'est très vrai, il est présent. Mais cette présence peut échapper à ma conscience psychologique, tant au plan philosophique, au plan spirituel et chrétien. Comme cette présence peut m'être donnée profondément, en au-delà de ma psychologie, par l'expérience qui relève de l'Esprit Saint au point de vue chrétien. Et au point de vue philosophique, cette présence peut aussi m'être donnée au point de vue d'un point de vue intellectuel, mais elle m'est donnée de façon beaucoup moins profonde. Mais il peut y avoir des suppléances. Moi, je crois que Dieu est très touché, comme dit Aristote, de voir qu'on cultive en nous ce qui nous permet naturellement de remonter jusqu'à lui. Et donc Dieu peut très bien donner des suppléances. Je suis persuadé qu'un Plotin a eu des suppléances de grâce. Que même peut-être Aristote, dans la contemplation qu'il a pu avoir, quand il dit que la contemplation apporte les plus grandes jouissances, les plus grandes joies. Oui. Et c'est vrai qu'elle apporte les plus grandes joies, les joies de l'intelligence, très profondes. Mais il faut du temps. 45 ans avant de devenir métaphysicien, au dire d'Aristote, est-ce qu'il faut que les passions soient un tout petit peu calmées? Tant que les passions sont à l'état trop violent, l'intelligence ne peut plus avoir la même force. Et c'est pour ça que faire de la métaphysique apaise les passions. Tout ça en est aperçu, n'est-ce pas? Donc, faire de la métaphysique apaise les passions, puisque ça oriente votre vitalité humaine dans un sens spirituel. Et donc ça éduque, ça permet aux passions c'est plus ou moins, ce sera moins violent. Et ce sera plus intérieur. Ça renouvelle les passions. Faire de la métaphysique, ça c'est sûr. Bon, continuons l'éthique. Réflexion philosophique. Je vous disais la dernière fois que, au plan philosophique, nous devons, aujourd'hui, dans le climat dans lequel on est, après les idéologies athées, dans ce climat de laïcisation, qui est notre climat, pas ici, hein, mais à côté, il suffit de passer la porte pour être à la mairie. Alors, le climat de laïcisation, qui existe, que c'est un fait. Vous voyez, l'autre jour, quelqu'un qu'on voulait embaucher à la mairie, alors on a dit, aucun signe religieux. Laïque. Elle n'a rien dit. Moi, j'aurais dit, écoutez, je suis musulmane, islam, je vais arriver avec mon costume. Est-ce que vous m'accepterez? Ce qu'on va accepter les musulmans, ils refusent les chrétiens. Vous allez voir. Alors à ce moment-là, si les chrétiens ne sont pas là pour dire, écoutez, hein, c'est un peu gros. Petit à petit, on deviendra musulman. Un état musulman. Il faut être très attentif à ça. Très très attentif. Alors, dans ce climat, si on veut être philosophe, et nous devons l'être, le concile nous le demande, ouverture au monde, donc ouverture à la mairie. Nous devons donc essayer de comprendre que de fait, il y a une éthique dont le fondement est l'amitié, l'amour d'amitié. On l'a montré la dernière fois. C'est l'amour spirituel qui permet à l'éthique d'exister. Et cet amour spirituel, je l'expérimente à travers l'amour d'amitié. C'est là où j'ai l'expérience la plus nette. Or, comme c'est difficile, je prends toujours au plan philosophique, parce que le philosophe doit être intelligent, et donc il doit choisir le lieu où il saisira le mieux ce qu'est l'amour spirituel. C'est pour ça qu'on part de l'expérience de l'amour d'amitié. Deuxièmement, je m'aperçois que l'homme est enveloppé de traditions religieuses. Depuis le début, les traditions religieuses ont commencé avant la philosophie. Donc ils ont un droit d'aînesse que le philosophe doit respecter. J'ai pas le droit de supprimer ça d'un trait. En disant je suis plus intelligent qu'eux. Non. Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes plus intelligent? Est-ce que vous êtes plus intelligent que vos grands-parents? Vous avez plus d'informations. Parce que vous avez les télévisions, la TSF, vous avez l'ordinateur, beaucoup plus d'informations. Mais attention. Est-ce que vous êtes plus intelligent? J'en sais rien. Est-ce que vous avez plus de qualité? J'en sais rien. Avez-vous plus de finesse? Je n'en sais rien. Je serais plutôt tenté de dire que c'est l'inverse. Tentation, hein, tentation. Je n'y cède pas, je laisse le point d'interrogation. Je vois que, avant la philosophie, tradition religieuse. Et le philosophe doit regardez si ces traditions religieuses sont des mythes ou ces traditions religieuses véhiculent une réalité très profonde qui est le mystère de la création, le mystère de la paternité de Dieu sur moi. Je n'ai pas le droit de supprimer ces traditions religieuses par mes a priori de laïcité. Ce n'est pas très intelligent. Il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas très intelligent de faire ça. Parce que ça prouve qu'au fond, on ne cherche pas à connaître l'homme dans toutes ses dimensions. Donc il y a un manque de respect. Et les manques de respect, c'est toujours un manque d'intelligence. Ou bien c'est la méchanceté. Alors j'aime mieux dire que c'est un manque d'intelligence. Parce que la méchanceté, c'est tuer l'homme. Et alors quand on refuse a priori certaines dimensions, on mutile l'homme. Et quelquefois, on le tue. Alors, il faut être attentif à ça. Je m'aperçois que ces traditions religieuses montrent que l'homme est animal religieux. Que l'aspect religieux est comme naturel à l'homme. Et je sais aujourd'hui que les refoulements par rapport au point de vue religieux provoquent les plus grandes angoisses. Un monde qui refuse l'aspect religieux est un monde qui se condamne à l'angoisse. Et l'angoisse conduit au suicide et au suicide collectif. Un pays qui se met dans la laïcité en opposition vis-à-vis de l'aspect religieux se condamne à un suicide collectif, tôt ou tard. Il faut avoir le courage au plan philosophique d'aller jusque-là. Mais il faut le comprendre, ça. Parce qu'il ne faut pas le répéter. Il faut pouvoir le comprendre pour le dire avec intelligence au moment où on doit le dire. Donc, si je découvre, grâce à la philosophie première, que l'homme est capable de découvrir l'existence de Dieu, qu'il est capable de découvrir ce qu'est la création, et donc qu'il découvre philosophiquement que l'homme réclame profondément en lui d'adorer celui qui est son créateur et que je peux philosophiquement le montrer. Je dois reconnaître que la dimension la plus fondamentale de l'homme, c'est l'attitude religieuse. Cette attitude religieuse me fait découvrir une nouvelle fin pour l'homme. Adorer et contempler le Créateur autant que je le puis. Que l'homme a en lui quelque chose d'immortel. Et que ce quelque chose d'immortel, c'est très difficile pour lui de le préciser, mais il le pressent. Il peut quand même le montrer philosophiquement. S'il y a une nouvelle fin, il y a donc une nouvelle éthique, qui sera l'éthique religieuse. Et je dois, en dernier lieu, montrer que j'appartiens à une culture chrétienne, à des traditions chrétiennes, pas seulement des traditions religieuses, mais une tradition chrétienne qui repose sur la foi. Et je peux donc préciser que le chrétien a ceci de particulier, c'est qu'il sait qu'il a une finalité qui est au-delà de l'attitude religieuse, mais qu'il inclut pas en opposition, mais qu'il est appelé à une vie surhumaine, divine, la vie du chrétien. Parce qu'il y a eu, dans notre histoire, quelqu'un qui s'est présenté comme Dieu. Et que ce quelqu'un, qui était un homme, né d'une femme, d'une manière miraculeuse, que ce quelqu'un qui s'est présenté comme Dieu, m'a amené, m'a donné une révélation nouvelle impliquant une béatitude nouvelle, une finalité nouvelle. Je suis donc en présence d'une éthique nouvelle qui est l'éthique chrétienne. j'étudie philosophiquement et non pas apologétiquement. Je remplace l'apologétique par une philosophie, ce qui est mieux. C'est-à-dire, j'essaie, en tant que philosophe, si je suis chrétien, de réfléchir sur ma vie chrétienne, au plan purement humain. Et si je ne suis pas chrétien, j'essaie, par mes amis, de comprendre ce que représente cette éthique chrétienne, et par l'Évangile, et par la manière dont les chrétiens vivent. J'ai parfaitement le droit de faire ça, non seulement le droit, mais le devoir. Parce que je suis en face d'un très grand problème aujourd'hui. Le problème de l'Europe. Si je suis européen, si je suis américain, j'ai encore ce problème puisque l'Amérique est rattachée à l'Europe. De fait, historiquement. Donc, c'est les petits-fils. Et donc, il y a un lien qui reste. C'est quand même un grand aspect de la culture humaine devant lequel je me trouve. Je sais très bien qu'il y a l'Asie, qu'il y a l'Inde, qui ne sont pas liés à l'Europe directement. Mais je vois une Europe qui veut se faire par l'unité de l'économie. Puis-je accepter ça? J'écoute l'encyclique du pape sur ce problème-là et qui montre l'impossibilité au point de vue purement humain et au point de vue chrétien de faire une Europe unie uniquement par le point de vue économique. Donc il y a un problème qui se pose au philosophe. S'il veut rester vraiment un homme, est-ce que la culture chrétienne est une culture qui était pour un temps, ou est-ce que la culture chrétienne se présente comme une culture qui n'est pas pour un temps, mais qui domine au contraire un temps? Autrement dit, dois-je suivre la vision marxiste ou de Lénine? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire Lénine, parce qu'on dit Marx est mort, il n'est pas mort. Hein. Il révivite dans Lénine. Alors, dois-je prendre cette vision? Le christianisme a préparé l'idéologie athée. Le christianisme a permis à l'homme d'être parfaitement homme pour comprendre que Dieu, c'était un mythe, que l'homme devait dépasser pour être parfaitement lui-même. Feuerbach. Mais le gros problème, qui est un problème qu'on doit regarder en face. Autrement, on n'est pas vraiment philosophe. Et on n'est pas vraiment homme. On se laisse mener par la droite ou par la gauche. Alors on n'a pas le droit, dans la mesure où on peut regarder ces problèmes en face. Donc il y a un problème d'éthique chrétienne, de philosophie d'éthique chrétienne qui se pose aujourd'hui. Et parallèlement à ça, le problème de savoir s'il y a une politique chrétienne ou s'il y a simplement des hommes chrétiens qui font la politique. Le problème se pose. Et se pose par rapport à notre Europe, auquel on veut redonner un sang nouveau. Et par le fait même, les relations avec l'Amérique, les relations avec l'Inde, les relations avec l'Asie, les relations avec la Turquie. La fine pointe de l'Asie lève le nez. Je voudrais bien appartenir à l'Europe. Qu'est-ce qu'il faut comme condition? C'est très curieux quand on réfléchit sur tous ces problèmes et on les sent très présents. Et puis l'Afrique. L'Afrique qui est en train de se remuer dans tous les sens. Mais on a un problème au plan humain qui est très dépendant de savoir deuxièmement, s'il peut ne pas tenir compte de l'éthique chrétienne, si philosophiquement parlant, il a le droit de la nier, ou si au contraire, la nier est un signe de peu d'intelligence. La grande angoisse de Nietzsche, qui était une angoisse terrible, il avait perdu la tête. Alors est-ce que tous ceux qui regardent le problème de l'Europe et qui prennent la position nietzschéenne vont-ils perdre la tête? Les asiles de psychiatrie ont trop de monde aujourd'hui. On le sait. Et alors, est-ce que ça va se terminer par un suicide collectif de l'Europe qui existera en suicidant? C'est des problèmes qui vont très très loin, que le pape lui-même nous dit qu'il faut réfléchir. C'est trop grave. On est devant un précipice. Alors, on ne peut pas grand-chose aller dire, mais c'est pas moi qui... Ah, vous pouvez réfléchir. Vous pouvez être lucide là-dessus. C'est déjà beaucoup. Parce que dès qu'on est lucide, on est témoin. Si on n'est pas lucide, on est mouton de panurge. Alors, on n'a pas le droit. Vous voyez le problème, hein ? C'est un problème actuel. Et terriblement actuel. Donc, il faut être très éveillé là-dessus. Je dis donc trois finalités. S'il y a trois finalités différentes, y a-t-il trois fondements à cette éthique? Alors là, très grave problème. Il faut voir la manière dont on peut traiter la chose. Éthique humaine fondamentale. Éthique humaine, religieuse. Éthique humaine, chrétienne. Je dis bien ça, vous voyez, parce que le philosophe regarde l'éthique humaine. Est-ce que l'éthique humaine continue d'être dans l'éthique humaine religieuse? Est-ce qu'elle continue d'être dans l'éthique humaine chrétienne? Si l'éthique chrétienne était totalement autre, le philosophe ne pourrait rien dire. L'éthique chrétienne s'enracine dans l'éthique humaine par l'éthique religieuse. L'éthique religieuse est-elle une éthique humaine ou est-elle une éthique totalement autre? Vous voyez le problème, là, un peu critique, parce que je cherche le fondement. Je vois donc que l'éthique chrétienne est humaine par l'éthique religieuse. Ça, c'est évident. Pourquoi? Parce que l'éthique chrétienne est autour d'un fondateur, le Christ. Et elle repose directement. Elle en a pris le nom. Épicure aurait voulu être fondateur d'une religion épicurienne. Et on aurait l'éthique épicurienne. Elle existe. Et si je voulais aller jusqu'au bout, il faudrait, voyez, à partir de chacune de ces éthiques, critiquer dans une vision de sagesse, les autres éthiques, qui se disent humaines, qui se disent religieuses. Alors, l'éthique chrétienne, Jésus dit, pas un iota de la loi disparaît. La loi est présente, mais elle est accomplie, dépassée. La loi représente une éthique religieuse, ce que nous allons voir. Premier commandement, un seul Dieu tu adoreras. L'adoration chrétienne assume l'éthique religieuse. Et l'éthique religieuse assume l'éthique humaine. Alors ça, c'est ce que nous devons montrer. Et c'est important, parce que ça fait comprendre l'ordre que nous prenons au plan philosophique. Éthique humaine, fondamentalement humaine. Éthique religieuse, philosophie de l'éthique chrétienne. Éthique humaine chrétienne. Donc vous voyez bien. Alors, l'éthique religieuse, c'est l'homme qui découvre l'existence du Créateur. C'est l'homme qui assume les traditions religieuses et qui les reconnaît comme étant valables pour lui, telle ou telle tradition religieuse. Donc, c'est l'homme qui est responsable de ce choix. Vous n'avez pas choisi l'éthique humaine, elle s'impose à vous. Vous choisissez l'éthique religieuse. Vous la choisissez comme s'imposant à vous. Autrement dit, vous la découvrez. Pourquoi ? Parce que l'éthique religieuse n'existe qu'au moment où l'homme, soit par les traditions religieuses, soit par sa propre recherche philosophique, découvre l'existence d'un Dieu créateur. L'éthique religieuse n'existe, condition sine qua non, que si je regarde le Créateur, et si je me regarde en tant qu'homme, comme créature. Je crois qu'on peut dire que la condition sine qua non d'une éthique religieuse, c'est de se considérer comme totalement relatif au Créateur. Donc d'accepter que je suis dépendant du Créateur, d'accepter cette relation de dépendance totale, Créateur-créature, créature-créateur, condition sine qua non. Hein, voyez, la condition sine qua non de l'éthique humaine, c'est que je suis capable de poser un acte volontaire, un acte d'amour spirituel. Si je ne suis pas capable de poser un acte d'amour spirituel, il n'y a pas d'éthique humaine. Si je reconnais qu'il y a une dépendance radicale entre moi comme créature et le Créateur, il y a une éthique religieuse. Je crois que nous pouvons tous comprendre ça. Condition sine qua non. C'est toujours ce qui nous aide à comprendre ça. Or, reconnaître la dépendance de la créature à l'égard du Créateur se fait dans un acte volontaire qui implique un choix. Donc un volontaire parfaitement conscient dans l'acceptation d'un amour de dépendance qui se traduit dans l'adoration. L'adoration est un acte volontaire humain, donc qui implique nécessairement l'acte volontaire, et donc l'éthique humaine dans ce qu'elle a de fondamental. Là, je vous montre le lien qui existe entre l'éthique religieuse et l'éthique humaine. Et que l'éthique religieuse ne peut se comprendre à partir de l'éthique humaine, l'acte volontaire, l'amour volontaire. Ça, il faut tous comprendre ça. Hein. La découverte, autrement dit, je reprends d'une autre manière, la découverte que Dieu est le Créateur, qu'il existe un Dieu Créateur, cette découverte se fait où ? Par les traditions religieuses. Les traditions religieuses, au point de vue philosophique, ne sont qu'une opinion. théogonie d'Hésiode, vous verrez la multiplicité des traditions religieuses du temps d'Hésiode. Allez en Asie, vous verrez que les traditions religieuses ne sont pas les mêmes que nous. Dans l'Inde également. Donc, les traditions religieuses, je peux les étudier pour elles-mêmes. Je vois leur multiplicité. Je peux les comparer. Et je peux, en les comparant, voir que la tradition judéo-chrétienne a quand même quelque chose d'assez unique. Mais elle s'impose à moi. Je peux en avoir l'expérience et me trouver bien dans la tradition judéo-chrétienne. Mais ça reste dans l'ordre de l'opinion. Ce n'est qu'au moment où mon intelligence philosophique arrive à découvrir l'existence d'une réalité première, de quelqu'un que je découvre comme mon créateur, que je peux, à partir de là, saisir que la tradition judéo-chrétienne respecte parfaitement et pleinement ce que mon intelligence métaphysique dit. Que l'éthique religieuse s'appuie sur une évidence et donc s'impose à moi, humainement parlant. Et ce n'est que le jour où, ayant la foi chrétienne, me donne une certitude, non pas une évidence, mais une certitude, que je vois que cette foi chrétienne assume une tradition judéo-chrétienne et que cette tradition a une pureté, une limpidité beaucoup plus grande que toutes les autres traditions religieuses, même la tradition musulmane qui vient après, et donc qui semble, et que je peux dire comme rétrogradant la tradition judéo-chrétienne. La tradition juive, comparativement à la tradition musulmane, a ce privilège d'être plus ancienne. Et pour une tradition, c'est beaucoup l'ancienneté. Parce que les traditions s'appuient sur l'autorité. Et l'ancienneté, pour l'autorité, joue. Pour la métaphysique, pas du tout. L'ancienneté, c'est rien. C'est l'éternité qui joue. C'est pas l'ancienneté. C'est l'éternité de Dieu. C'est l'éternité du Créateur qui joue. Et c'est important de voir que, de fait, grâce à la métaphysique, grâce à la foi, je transcende les traditions religieuses. Il y a deux moyens de transcender les traditions religieuses. La foi, et qui est un don de Dieu, et le travail philosophique qui aboutit à la métaphysique, qui aboutit à l'évidence de l'être premier créateur. Il n'y a pas 36 manières de dépasser les traditions religieuses, il n'y en a que deux. Et puis, il peut y avoir une manière, non pas de transcender, mais de négliger les traditions religieuses, de les oublier. Mais oublier les traditions religieuses sans les avoir critiquées, ce n'est pas une position humaine. C'est une position infra-humaine. Vous voyez, il faut être très très net là-dessus, pour nous-mêmes et pour essayer, quand on se trouve en face de quelqu'un qui rejette les traditions religieuses, je dis, au nom de quoi vous les rejetez? Et la plupart du temps, ce sera à ce niveau-là que les discussions se poseront. Vous leur présenterez la Bible. Voilà une tradition judéo-chrétienne. Est-ce que vous l'avez lue? Ah non. Et vous la critiquez? Est-ce que vous avez le droit de faire ça? N'a pas le droit. Savoir Sur quoi se fonde mon éthique religieuse? Sur quoi se fonde mon éthique humaine chrétienne? Oui. Alors, je vois ceci. Ceci étant dit, que l'éthique humaine et religieuse se tiennent, donc d'une certaine manière, le fondement de mon éthique religieuse est le même que mon éthique humaine. Mais ce fondement implique un étage supérieur. Et cet étage supérieur ne peut être le fondement premier. Pour moi, le fondement premier reste toujours une éthique humaine. Il n'y a pas, à partir de l'aspect religieux, quelque chose de totalement nouveau. Non. Je sais que là, les positions sont diverses. J'essaie de dire ce qui me semble être vrai. Parce que certains diront l'éthique religieuse repose... Et première, l'éthique humaine n'existe que si une éthique religieuse. Position très très classique, ça. Très classique en chrétienté. Mais je ne crois pas qu'elle est philosophique. Oui. Parce que, faire reposer, je vais faire le petit j'aime, vous allez comprendre, j'espère. Traditions religieuses me sont données directement, indépendamment de la philosophie. Donc l'homme les reçoit. L'homme religieux les reçoit. Ces traditions religieuses, qu'est-ce qu'elles sont pour lui? Elles sont reçues dans une croyance. Pas dans une foi, dans une croyance. Je me place dans la position de celui qui n'est pas croyant. Il y a une croyance, donc les opinions. Ces traditions religieuses ont une certaine autorité. Certaine autorité. Et il y croit. Mais c'est une opinion. Il peut, à partir de ses croyances et de ses traditions religieuses, montrer que l'homme est avant tout religieux. Opinion. Donc au plan philosophique, c'est critiquable, comme toute opinion. Il faut les critiquer. Si mon intelligence humaine est capable de les critiquer, elle doit les critiquer. Comment peut-elle les critiquer? Elle ne peut les critiquer que dans une philosophie réaliste qui découvre l'existence d'un être premier et que cet être premier est le créateur. Et que ces traditions religieuses respectent parfaitement ce que je conçois comme créateur. Autrement dit, il faut accepter. Et je sais que tout le monde ne l'accepte pas. direction inverse, je n'entrerai jamais dans une éthique philosophique.